Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, nous sommes aujourd'hui avec des membres de l'amitié judo-chrétienne de Dijon, en particulier donc Monsieur Michel Lévy, qui représente la communauté juive, on peut dire ça comme ça, Monsieur Raphaël Clément, qui est chargé le père Raphaël Clément, qui est chargé des relations avec le monde juif par l'archevêque de Monsieur l'archevêque de Dijon. Et le pasteur Marcel Menga, donc de l'Église réformée, je ne sais plus le nom exact, de
Protestante Unie de France.
Protestante Unie de France de Dijon. Même si je crois que ses activités vont beaucoup plus loin que Dijon et son agglomération. Aujourd'hui, vous vous retrouvez pour parler aux auditrices auditeurs de Pâques et de Pessah, qui est un moment important dans la vie des Juifs et des chrétiens. Donc, nous allons commencer un petit peu pour introduire cette thématique, peut-être Monsieur Lévy nous dire quelques mots déjà sur Pessah.
Oui, bonjour tout le monde. Alors, Pessah, selon le Maharal de Prague, qui était un grand rabbin qui a vécu presque 100 ans entre François Ier et Henri IV, c'est le fondement des fondements et la racine de tout. En hébreu, Sod et Yesodot, Veshochachakol, et les initiales forment les quatre lettres du tétragramme. Et là-dessus, il a pris cette phrase en copiant une phrase de Maïmonide qui, lui, vivait à la fin des croisades et qui disait que le fondement des fondements, c'est le pilier de la sagesse. Il avait écrit un livre, Maïmonide a écrit un livre qui s'appelle comme ça. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que pour Maïmonide, c'est la sagesse, le savoir qui fait avancer, alors que pour le Maharal, c'est au contraire l'expérience, le vécu, qui est beaucoup plus important. Et quel est le vécu? Ça a été justement la sortie d'Égypte que nous fêtons, c'est-à-dire nous libérer de la culture de l'Égypte, de son enracinement et de ses valeurs ou non-valeurs. Donc notre but à nous est de nous arracher de l'Égypte, même de l'Égypte qui est en nous. Donc nous allons nous concrètement, au cours de Pâques, vivre un psychodrame dans lequel on s'arrache de l'Égypte. Et c'est le point le plus important.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut revivre en quelque sorte l'événement.
Exactement, c'est ça justement le fait. Et on est dans l'expérimentation, un petit peu dans la pensée de ce grand rabbin qui vivait à la Renaissance à Prague.
Vous y viendrez tout à l'heure, mais ce n'est pas qu'une question donc historique et politique, c'est une question aussi intérieure et philosophique et intérieure.
Oui, c'est une question intérieure et c'est une grande fête du dialogue. D'ailleurs, Pessah en hébreu, ça veut dire le passage en général. On passe de l'Égypte à autre chose, comme Abraham, à qui Dieu a dit « Lech lecha, va-t'en, quitte pour aller ». Et c'est en partant qu'on arrive justement quelque part. Et il y a aussi des jeux de mots. Il faut dire que les Juifs, nous sommes champions des jeux de mots, toutes catégories. On dit « Pessah ». « P » ça veut dire la bouche. Et puis « Sar », ça veut dire qu'il raconte. Effectivement, la fête de Pâques, c'est la fête de la transmission.
Là, vous parlez donc de la narrativité, de la narration. Peut-être le moment de donner la parole au Père Clément pour dire un petit peu ce que signifie Pâques déjà globalement pour les chrétiens et les catholiques en particulier.
Alors évidemment, pour nous les chrétiens, je pense qu'avec le pasteur Marcel, on se rejoindra beaucoup là-dessus. C'est que pour nous, ce qui est central, c'est ce passage également, le passage pour Jésus de la mort à la vie, à travers cette grande fresque, ce grand récit, ce grand drame qui est d'être passé par la trahison, l'arrestation, la mort, la mise au tombeau, et au matin de Pâques, au matin du jour de Pâques, de la Pâque chrétienne, à la résurrection. Il est revenu à la vie, enfin dans une vie nouvelle. Et donc ce passage par la mort vers la vie, c'est constitutif de la spiritualité, de la théologie autour de la Pâque chrétienne, qui est absolument structurante, qui, dans le récit évangélique, a eu lieu lors d'une Pâque juive. C'est ça qui est enraciné. Alors, j'en reparlerai parce qu'il y a, il y a des éléments très, très, très convergents, très intéressants sur, et qui donnent des choses plus précises sur la, la densité de, également d'un événement qui est à vivre. Ce n'est pas seulement un, je sais pas comment dire, un pieux anniversaire, c'est un événement qui est à vivre et qui nous fait vivre individuellement et collectivement.
Qui s'inspire profondément des textes des évangiles.
Alors, qui est ancré dans les textes des évangiles, et quand on regarde les textes des évangiles, ils sont eux-mêmes, je ne sais pas comment dire, absolument nourris d'une narrativité, d'éléments symboliques qui ont leur fondement dans le rite de la, et dans la spiritualité de Pessah, de la Pâque juive.
Très bien, vous y reviendrez probablement sur ces proximités, ah oui, ces différences.
J'y reviendrai.
Pasteur Benga.
Oui, parler de Pâques, pour moi, c'est d'abord, comme disait le Père Clément, parler de la croix. La croix comme symbole central de la spiritualité chrétienne, de la pensée et même de toute la vie chrétienne. Et ce passage dont on parle ici, c'est qui est vraiment... symbolisé ici par la croix, le passage de la mort à la vie, qui récapitule tous ces événements que le Père Clément vient de citer, qui sont le complot, la trahison, l'arrestation, la comparution, le reniement aussi, avant d'arriver à cette crucifixion, à la mort, à la mise au tombeau, pour que ce jour de Pâques célèbre cette victoire de la vie sur la mort. Oui, Pâques est ce temps de commémoration qui, d'ailleurs, on peut le rappeler, pendant presque jusqu'à la moitié du deuxième, ou bien à la partie de la moitié du deuxième siècle, jusqu'à la moitié du deuxième siècle, on va le dire comme ça, Pâques était célébré tous les dimanches, tous les jours, toutes les semaines. Et à partir de la moitié du deuxième siècle, on a commencé à célébrer Pâques de manière annuelle. Donc, reste que c'est vraiment un événement central dans la spiritualité chrétienne Pâques, puisque pendant si longtemps, les chrétiens n'avaient pas d'autre fête à fêter que la fête de Pâques. Par le dimanche, toutes les semaines, et après, une fois, on avait le dimanche des dimanches qui était la fête annuelle de Pâques.
Bon, nous reviendrons donc sur certains symboles et certains rites qui sont partagés ou pas partagés. Justement, peut-être, M. Lévy, parler de ce céder, ce repas, cette soirée particulière de Pessah.
Alors justement, ce qui est la période de Pessah est avant tout marquée par la séparation. Vous savez, dans les juifs, dans le judaïsme, on adore tout séparer. On met tout dans des cases. On n'est pas partisan de mélanger. Et nous, on sépare avant tout ce qu'on appelle le chametz de la matzah. La matzah, c'est le pain azim. On a l'obligation de manger du pain azim. La Bible nous dit, le pain azim, c'est tout simplement de l'eau et de la farine. Et rien d'autre, il n'y a pas de sel, il n'y a rien du tout, il n'y a surtout pas de levure. On dit que les Hébreux ont été obligés de fuir l'Égypte. Ils n'ont pas eu le temps de faire gonfler le pain et ils sont partis avec ce pain de misère, qui est d'ailleurs tellement bon que dans le café au lait en particulier, on dit voici ce pain de misère, ben, y a beaucoup de miséreux qui seraient contents d'en manger, surtout que ça a beaucoup de qualité pour le régime, en quelque sorte. Hein. Mais alors, contrairement à la matzah, la levure, c'est tout ce qui gonfle. Autrement dit, on n'aime pas ça parce que c'est l'enflure, c'est tout ce qui est en quelque sorte le superficiel. Et en fin de compte, avec les lettres hébreux, le chametz, c'est donc tout ce qui est levé, tout ce qui n'est pas de la matzah. Et puis la matzah, c'est le contraire. Mais ils ont les mêmes lettres en hébreu. La seule différence, c'est une seule lettre qui n'est pas la même. C'est une qui est complètement fermée et une autre qui a une ouverture. Et c'est justement la différence. Ce qui est interdit, c'est ce qui est fermé. Ce qui est ouvert est absolument nécessaire, car c'est de l'ouverture justement vers les autres que l'on peut véritablement créer en quelque sorte, être véritablement soi-même. Quand on est fermé, ça ne va pas. Alors, donc, autrement dit, nous, on vit un véritable psychodrame le premier soir du Seder, le premier soir de Pâques, que nous appelons le Seder. Et le mot Seder, ça veut dire l'ordre, tout simplement. C'est un ordre de 15, en 15 étapes. Pourquoi 15 étapes? Parce qu'il y avait 15 étapes dans le temple, pour 15 marches dans le temple pour monter jusqu'au tabernacle où on offrait des sacrifices. Donc Pâques, c'est le symbole de 15 et aussi le symbole de 4. Il y a beaucoup de 4, il y a partout des 4. Il y a des 4 enfants en particulier qui racontent des histoires.
Vous y reviendrez tout à l'heure, je pense.
Oui.
L'importance de la présence des enfants et de la transmission entre parents et enfants, du sens profond de la fête de Pessah. Père Clément, donc, nous parlions tout à l'heure de la narrativité, de la narration. Quelle importance vous y donnez dans ce temps de Pâques?
Alors en fait, c'est vraiment en lien avec le Seder, c'est-à-dire qu'un des éléments du Seder, Michel Lévy me corrigera, si je dis une bêtise, mais un des éléments du Seder, c'est le récit, le récit de la sortie d'Égypte. Or, le Jésus, dans ce repas pascal, on ne sait pas s'il a fait un récit, parce que les évangiles en parlent de manière un peu précise, hein, dans les trois évangiles, Luc, Marc et Matthieu. Mais au centre du récit que nous faisons maintenant, parce qu'il y a un récit qui est structurant, qui est le récit de ce qui se passe dans ce repas pascal juif. Ce qui est intéressant, c'est que dans le récit, on retrouve à la fois certains éléments, mais pas tous, du seder juif. On retrouve les matzot, il prit le pain. On retrouve, on ne retrouve pas le maror, quand même l'élément central, les herbes amères, on ne le retrouve pas, à aucune manière, sauf si on considère que le climat dramatique dans lequel se passe ce repas pascal de Jésus est un climat d'amertume. Trahi, condamné, il va être mis à mort dans quelques instants. Et puis, on ne parle pas de Pessah, on ne parle pas de l'agneau, parce que le Pessah désigne lui-même l'agneau, au sens où, finalement, l'agneau, on le découvre peu à peu, c'est lui. En fait, c'est lui. L'agneau qui est absent dans le repas pascal de Jésus, en fait, c'est lui. Par contre, on trouve d'autres éléments que sont les coupes de vin, qui ne sont pas, si j'ai bien compris, dans le récit de l'Exode, mais qui ont été assez vite introduits dans le repas du Seder. Donc, il y a les coupes de vin. Alors, il y a beaucoup de choses à dire techniquement. Mais pour nous, c'est très intéressant, c'est qu'il y a un récit, il y a une narrativité, et qui est une narrativité qui porte en elle-même ce psychodrame dont parlait Michel Lévy il y a un instant. Et une narrativité propre que Jésus fait. Il prend le pain, il le bénit, il le rompt, il le donne à ses disciples en disant « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Et il va même jusqu'à dire « Ceci est mon corps » ou « Ceci est mon sang ». Ce qui paraît presque un blasphème dans le judaïsme. Il dit « Ceci est mon sang » sur le vin. Donc pour nous, voilà, c'est un geste qui est très 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 fondateur. Dans le catholicisme en particulier, ça a une importance sacramentelle qui est très très grande, avec le fait que ce récit, ce geste, il l'accomplit en demandant d'une part à ce qu'on le réitère, et il l'accomplit comme une espèce de clé d'interprétation de ce qui va se passer plus tard. C'est-à-dire la mort et la résurrection. Donc dans le compute chrétien, ce repas pascal, c'est un jeudi soir. Et donc, ce récit intègre déjà et annonce ce qui va se passer le vendredi avec sa mort, le samedi avec la mise au tombeau, enfin la journée au tombeau, et puis le dimanche, le jour de la résurrection. Et un petit peu comme dans l'Exode, où le Seigneur demande au peuple de célébrer une première fois ce repas avant de sortir et en demandant de réitérer, de refaire de génération en génération ce repas avec les repas rituels, les éléments, etc. dont vient de parler Michel Lévy il y a un instant.
Alors, vous avez évoqué les jours de la semaine qui sont concernés. On parle du Triduum pascal. Peut-être préciser, Pasteur Menga, la nuance, je crois, qui existe entre, disons, l'approche catholique, enfin le vécu catholique et le vécu protestant concernant ces trois jours, le jeudi saint, le vendredi saint, la veillée pascale.
Voilà, en tout cas, le Triduum pascal, c'est une des manières de comprendre cela. Nous avons cela en partage dans le christianisme. Le Triduum, il peut s'entendre comme étant vraiment ces trois jours, c'est-à-dire le jeudi, où il y a l'instauration de ce repas qui est partagé entre Jésus et ses disciples, et qu'il demande à les disciples présents et futurs de toutes les générations de réitérer et de le refaire, et que nous avons compris aujourd'hui et instauré dans toute la chrétienté comme étant un sacrement. Et puis le deuxième jour, c'est le vendredi, c'est-à-dire le jour de sa mise à mort, et puis le dimanche, le jour de sa résurrection. Voilà, le Triduum peut être compris de ces trois jours-là. Mais parfois aussi, dans le monde protestant, le Triduum, on peut aussi parfois l'entendre simplement à partir du vendredi, c'est-à-dire le vendredi, le jour de la mort, le samedi, qui est ce jour qui symbolise toutes les déceptions, les attentes, les questionnements que nous pouvons porter face au drame vécu la veille, et où on peut se poser cette question fondamentale de la foi. J'y crois ou j'y crois pas? Voilà, tout ce jour-là et jusqu'à arriver à ce dimanche. On peut comprendre le Triduum pascal comme étant ces trois jours aussi. Donc vous voyez qu'on peut élargir cela, mais je pense que c'est beaucoup plus simple de comprendre le Triduum pascal comme jeudi, vendredi et dimanche.
Très bien, donc quel est le rapport justement entre le baptême, l'Eucharistie, enfin, comment ça se lie avec Pâques?
C'est-à-dire que l'événement fondateur de la mort et de la résurrection, comme je disais tout à l'heure, c'est un événement rédempteur. Hein. On le conçoit comme un événement rédempteur, c'est-à-dire un événement de salut. Et que cet événement rédempteur que vit le Christ, tout chrétien est appelé à le recevoir, en fait, à le vivre. Et il le vit, justement, par les... Bon, c'est la théologie catholique insiste beaucoup là-dessus, par les sacrements. Et le premier des sacrements, la porte d'entrée, c'est le baptême. C'est-à-dire qu'en plongeant, c'est l'étymologie du mot, hein, baptême, en plongeant dans l'eau du baptême, eh bien, le croyant vit cette Pâque. C'est-à-dire ce passage d'une vie à une autre, d'une condition à une autre. Et en devenant chrétien, il vit cette irruption de l'événement dans sa propre vie. Il accueille l'événement. Voilà. Et puis ensuite, les autres sacrements viennent, chacun à sa manière, conforter ce cheminement de son existence, de cette nouvelle identité, de cette nouvelle condition.
Oui, je partage cela, et d'autant plus que peut-être qu'on peut se rappeler que Pâques est donc ainsi comprise dans la chrétienté comme récapitulant toute l'histoire du salut. Et on parlait du récit tout à l'heure, donc quand on pense à Pâques et que on pense à toute l'histoire du salut, c'est de parler de tout cela, de l'antériorité du christianisme, du judaïsme, de tout ce que le judaïsme porte, et nous, on l'appelle dans notre Bible, tout ce qui est inscrit dans l'Ancien Testament et tout ce qui a préparé aussi l'arrivée de Jésus ou la reconnaissance de Jésus comme étant le Christ dans le monde chrétien. Tout cela se récapitule ici dans Pâques. Et justement, le baptême va être cette porte d'entrée où on va récapituler, reprendre tout ce récit et de nous le rappeler, de le donner au nouveau baptisé, de l'inviter à rentrer dans ce narratif et dans ce vécu pour qu'il puisse lui-même en vivre. Et je disais tout à l'heure aussi cette centralité de la croix. Je m'appuierai notamment sur deux textes du Nouveau Testament. Vous savez, dans la Bible que nous utilisons dans le monde chrétien, dans le Nouveau Testament, à côté des évangiles, nous avons surtout plusieurs lettres qui ont été écrites aux églises pour les accompagner dans leur vie de foi, pour les édifier, pour répondre à certaines questions qui se posaient aux membres venant un peu de partout. Et l'une des lettres assez importantes que l'apôtre Paul va écrire aux chrétiens de Corinthe, donc l'épître aux Corinthiens, je retiendrai de cette épître-là comment est-ce que l'apôtre Paul veut rappeler depuis le baptême jusqu'à toute la communauté depuis toujours la centralité de la croix dans la foi.
Les Juifs parlent de la libération d'Égypte, libération enfin, concrète entre guillemets, et libération intérieure, enfin, M. Lévy reviendra. J'ai entendu le mot rédemption qui a un rapport avec cette idée de liberté, d'espérance, enfin, de possibilité de continuer à vivre. Comment vous pourriez parler savamment de cette question de la rédemption, parce que c'est un mot difficile à comprendre.
Alors moi, je reviendrai un petit peu en arrière pour comprendre l'aspect de rédemption.
Je vous en prie.
C'est le mot de mémorial. Dans le CDR, il y a une phrase qui, moi, me touche beaucoup. À un moment donné, on dit... À chaque génération, chacun doit se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Mmh. Et un peu plus loin, ce ne sont pas nos ancêtres seulement que le Saint, béni soit-il, délivra. Il nous délivra, nous aussi avec eux, car il est dit, il nous a fait sortir de là-bas pour nous conduire vers la terre promise à nos pères et pour nous la donner. C'est-à-dire que le repas, ce rite, et comme une espèce de réitération à chaque génération d'un événement qui est un événement de salut, c'est-à-dire cette sortie. Et comme le disait Michel Lévy, il y a la sortie d'Égypte de l'esclavage pour une terre de liberté, alors que la loi sera donnée plus tard. Et on peut la comprendre ensuite, cette libération, non seulement individuelle, mais aussi collective, mais aussi morale, mais aussi sociale, mais aussi... Eh bien, le christianisme assume cela, tout à fait, dans le sens de ce passage, donc, de la mort à la vie, que vit le Christ, que traverse le Christ, que traverse Jésus. Et dans ce passage-là, dans cet événement-là, il y a une espèce de, je sais pas comment dire, de contamination, presque de déflagration. C'est comme ça que le comprend la théologie, une déflagration qui touche toutes les cultures, tous les hommes, tous les temps même, et qui va apporter ce passage du mal au bien, du mensonge à la vérité, de la mort à la vie. Voilà, c'est tout le symbolisme. La rédemption, c'est le passage de la mort à la vie. Voilà. Cette vie, ce bonheur que tout homme porte dans son cœur, eh bien, par sa mort et sa résurrection, le Christ l'apporte à tous ceux qui s'approchent de lui. C'est ça, en fait, il me semble, le fond du message chrétien. Et c'est ça qu'on veut dire par rédemption. Alors, selon l'histoire de la spiritualité, dans le passé, on a pu insister sur tel et tel aspect, etc. Notamment toute la question de la théologie du péché, ou bien la théologie du mal, etc. Mais ce besoin de salut, eh bien, il s'exprime par cette rédemption que le Christ apporte par ce passage, par son propre passage, sa propre Pâque, de la mort à la vie. Dans ce sens-là, de la mort à la vie.
Oui, je partage cela. Hein. Là, vous vouliez dire peut-être quelque chose par rapport à cela, Michel.
Terminez, si vous voulez compléter ce que dit le
pasteur. Non, en tout cas, donner juste à dire que oui, je suis d'accord avec ce regard, parce que parler de la rédemption, parler de la libération, je continue à penser que c'est parler de tout ce qui précède à cela, tout ce qui conduit à cela, c'est-à-dire tous les drames que nous pouvons penser, que ce soit quand on repense à l'esclavage, on ne peut pas simplement penser la sortie de l'esclavage sans penser qu'il y a eu l'esclavage. Mmh. Donc, comment mettre l'accent sur cela? On ne peut pas penser à la libération, à la rédemption, si on ne peut pas penser déjà à la mort. Et aujourd'hui, quand on est dans ce cycle pascal à partir de ce vendredi qui est, en tout cas, d'une manière beaucoup plus accentuée chez les protestants, le temps le plus généralement suivi massivement par les protestants, parce qu'on veut marquer ce temps-là plutôt que de, peut-être pour mieux habiter la rédemption, pour mieux habiter la libération, comment habiter d'abord la réalité de la mort, et encore aujourd'hui dans notre époque où la mort semble être souvent un peu effacée de l'espace de vie des personnes. Donc remettre cela au cœur de notre spiritualité, c'est tourner tout notre regard vers toutes les violences qui existent encore aujourd'hui. C'est de parler de tout ce qui est injuste dans l'histoire de l'humanité. Pâques, c'est aussi et avant tout cela.
Vous évoquez à travers ça des beaux chants qui ont été inspirés par Pessard concernant la libération aussi aux États-Unis et ailleurs de populations qui étaient opprimées. Pour revenir tout à l'heure, le père Clément et vous-même, d'ailleurs, pasteur Benga, vous avez évoqué l'intensité du moment et surtout que c'est un vrai vécu, un vécu de vérité, une intensité profonde. Et peut-être revenir vers vous, monsieur Lévy, par rapport à la soirée où il y a des enfants qui sont présents. C'est une fête très familiale. Et la question de ce vécu et cette transmission, qui est un moment clé dans la vie familiale juive.
Oui, bien sûr, oui. Je vais en parler, mais enfin, aussi, il faut dire, le christianisme et le judaïsme ont un petit peu divergé un petit peu à cette époque. Et pour nous, c'est plus la naissance, Pessah, c'est la naissance du peuple juif, en fin de compte, peut-être plus que sa libération. Et d'ailleurs, si on regarde beaucoup de passages de la Bible, on dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage ». Et on ne dit pas « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le monde ». La création du peuple juif, c'est justement à Pâques, en quelque sorte. Et puis, chez nous, la mort est complètement absente du repas du Seder. Et là où les religions divergent, mais pour reprendre un petit peu l'idée du Maharal de Prague, toujours, que j'ai appris à aimer, ce sont justement ces différences qu'il ne faut surtout pas gommer, qui en fin de compte nous enrichissent tous. L'homme s'enrichit par la femme, le blanc s'enrichit par le noir, les contraires s'enrichissent, chacun a sa place sur terre, et c'est très bien comme ça. Donc on ne souhaite pas d'œcuménisme, et on reconnaît volontiers qu'il y a des divergences entre nos religions, ce qui n'empêche absolument pas de s'aimer, de s'apprécier et de se comprendre, de se compléter. C'est un petit point que je voulais dire là-dessus. Voilà. Alors aussi, dans la pédagogie, on raconte qu'il y avait quatre enfants. Quatre enfants, comme les quatre matriarches, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Il y a beaucoup de quatre, les quatre coupes durant le Seder. Mmh. Donc le premier des enfants, c'est le Haram, le sage. D'ailleurs, le Haram, tous ceux qui connaissent Tintin connaissent Rakam le Rouge. C'est bien Haram en hébreu, surtout quand il y a H à la fin, qui était sage. Il est sage, il est instruit, mais il n'est pas forcément juste ni bon. Hein. Il dit d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ces lois, ces règlements, ces décrets que vous fêtez ce jour-là? Alors là, on est en plein avec un juriste qui connaît la différence entre tout ça, alors on ne l'explique que scientifiquement. Donc le sage, il est surtout instruit, c'est l'intello de service. À côté, il y a le rachat, ce qu'on appelle. Alors là, on le traduit d'une façon très bizarre, on l'appelle méchant. Lui, il nie tout. En fin de compte, c'est le mécréant. Et puis vous savez qu'en français, quelqu'un de gentil, étymologiquement, c'est quelqu'un de chrétien. Celui qui n'est pas chrétien, il est mécréant, donc il est méchant. Donc lui, il est méchant, il dit « Qu'est-ce que c'est que ces conneries que vous faites ?» Alors on lui répond Ben, de toute façon, toi, tu n'aurais pas part à tout ça, tu n'aurais même pas été libéré compte tenu de tes idées. Alors, le méchant, c'est le mécréant. Il y a ensuite un autre qui est le simple.
Le tam.
Quand ?
Tam.
Tam, tam, oui. Qui est le simple. Lui, c'est en quelque sorte l'imbécile. Il sait, enfin, il sait pas grand-chose, mais on respecte tout le monde. On lui explique à son niveau pour qu'il puisse comprendre. Et enfin, il y a celui qui ne s'est même pas posé de questions. Lui, tout simplement, qui sait ? C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a des questions. Ça peut être un athée de service. Le gars qui n'est pas méchant, il ne conteste rien. Mais il ne connaît rien. Dans ma famille, j'ai une nièce qui s'est mariée avec un charmant jeune homme d'origine chrétienne, mais athée de chez athée. Tu veux athée que lui, on ne trouve pas. Il lui a jamais parlé de rien de religion. Et puis un jour, il a vu une statue de la Vierge. Et alors, la petite fille a demandé à son papa, « C'est qui la princesse ?» Donc, cette petite fille, c'est la personne qui ne se rend même pas compte qu'il y a une question, à qui il faut tout dire, tout expliquer. Et en fin de compte, tous les quatre, ils forment en quelque sorte, notre humanité.
Ou l'évolution de chacun, oui.
Oui, voilà, chacun est différent. Et c'est un truc très, très pédagogique, et c'est une très bonne idée. Et on a toujours coutume de demander aux plus jeunes de la famille de chanter cette chanson, les petits-enfants qui chantent. Mmh. Et ils posent des questions. Qu'est-ce qui différencie cette nuit des autres nuits ? Manishtana alaylaze. Mikola leilot, alaylaze, voilà, et ça. Donc c'est une chanson qu'on chante, et les enfants chantent. Qu'est-ce qui distingue cette nuit des autres nuits ? Toutes les nuits, nous mangeons assis ou accoudés, et cette nuit, nous ne mangeons qu'accoudés. Parce qu'à l'origine, les Juifs mangeaient accoudés, comme les Romains, accoudés, et ils buvaient une coupe avec la main du côté gauche, parce que comme ils s'appuyaient sur la main droite à la romaine, ils ne pouvaient boire qu'avec l'autre côté. C'était les esclaves qui mangeaient par terre. Donc, le jour de Pessah, les enfants et les grands, on est tous des rois, tous des seigneurs, tous des Romains.
Et c'est un repas qui dure très longtemps.
Et c'est intéressant ce que vous dites, Michel, par rapport à ces coupes, parce que, bon, je ne sais pas à quel moment elles ont été introduites, en fait, parce qu'on voit qu'elles ne sont pas dans l'Exode, mais dans la symbolique des coupes, à chaque fois qu'on la boit, on rappelle, les quatre coupes, puis la cinquième, on rappelle une promesse de salut que le Seigneur fait à son peuple. Je vous sauverai, je vous délivrerai. Alors, c'est au futur, mais c'est une promesse quand même. Je vous sauverai, je vous délivrerai, je vous affranchirai et je vous adopterai. Et quatre coupes qui sont bues de la manière dont vous dites, là, en signe de liberté déjà. Donc avant l'événement, en signe de liberté qui est comme déjà donné. C'est magnifique, quoi. Et ça, évidemment, dans le christianisme, ça nous parle parce que c'est exactement ça, quoi. Sauver, délivrer, être affranchi, être adopté. Être adopté, oui, c'est magnifique, ça. Être adopté.
J'ai sauvé, j'ai libéré. Et les cartis, je vous ai pris. Le mot exact, c'est les cartis, je vous ai pris les caractères à prendre. Donc, c'est pas le. Enfin, on peut traduire par adopter. D'accord. On peut traduire par adopter, mais le vrai mot, c'est je vous ai pris. Mm-hmm. Du point de vue. Dans le texte, le kéar, voilà. Mm-hmm. Il y a le mot libéré, voilà, et sauvé. Effectivement, je vous ai fait sortir. Le tout premier, je vous ai fait sortir, tout simplement. Mm. C'est Otsi, la sortie. Otsi Ati.
Le Seder de Pessah, Monsieur Lévy, est long. Enfin, c'est une très longue soirée qui se répète.
C'est-à-dire que normalement, on fait des commentaires et on explique. Alors, il y en a qui sont bavards, il y en a qui sont instruits, il y en a qui le font à toute vitesse. Mm. Il y en a pour qui le rituel, c'est bzou, puis il y en a d'autres qui peut durer extrêmement longtemps. Et dans certains mouvements, par exemple le mouvement juif libéral à Paris, le Seder de Pessah, ils font venir, Ils durent toute la nuit quasiment, ils font venir des gens. C'est des fois très riche.
Et une chose que moi j'admire beaucoup dans le journalisme en général et dans Pessa en particulier, c'est que c'est un rite, une liturgie domestique, c'est-à-dire c'est à la maison. Ce que nous, dans le christianisme, dans le catholicisme en particulier, on a complètement perdu. C'est-à-dire que qui dit liturgie, qui dit rite, qui dit... c'est nécessairement l'Église. Voilà. Et donc, quelque part, ça... je ne sais pas comment dire, enfin... un rite domestique, donc familial, qui a ce point ancré sur la dimension de transmission. On voit bien à quel point il y a la... avec les questions des enfants, il y a en jeu, il y a la question de la transmission. Nous, on le dit, nous, les chrétiens, en particulier les catholiques, on le vit d'une toute autre manière que moi, je trouve un petit peu dommage. C'est-à-dire, on a perdu cette dimension domestique. Alors, elle est célébrée différemment parce que c'est la grande famille des chrétiens. Une chose que je dis souvent aux paroissiens, moi, c'est que si on n'était pas chrétien, on n'aurait aucune raison d'être ensemble un dimanche matin du mois de mars dans ce même lieu pour chanter ensemble et écouter des textes ensemble si on n'était pas chrétien, parce que les différences de familiales, sociales, ethniques, de langue quelquefois, politiques, il y a des gens qui votent à gauche, il y a des gens qui votent à droite, il y a peut-être des gens qui votent au centre, il y a peut-être des gens qui votent pas, et on n'a aucune raison d'être ensemble en fait. On n'est pas de la même famille, au sens on n'est pas du même sang. Et pourtant, il y a cette connaturalité qui fait que, au-delà de toutes ces limites humaines, on est ensemble. Donc ça introduit une autre dimension familiale.
Michel Lévy.
Oui, d'ailleurs, malheureusement, il y a des choses qui se perdent un peu. C'est un petit peu autre chose que Pâques, mais il y a des coutumes de deuil, par exemple, dans le judaïsme, où les personnes endeuillées devaient rester une semaine assis chez eux, et ce sont les autres, tous les membres de la communauté, qui viennent tous les jours dans l'appartement de la personne endeuillée, eux, pour faire des prières. Et malheureusement, ça tombe en désuétude, mais l'importance du foyer, où toute la communauté venait pour une naissance, pour des fiançailles, pour un décès, on le fait dans des lieux publics, on ne le fait plus. Je regrette beaucoup, heureusement qu'il nous reste le CEDER, qui est quand même toujours important. Mais pour nous, la religion, le principal temple, c'est le foyer, dans le judaïsme.
Et est-ce que, alors, je me permets, M. Lévy, et vous deux, Raphaël et M. Menga, Pasteur Menga, dans le judaïsme, il n'y a pas le rabbin n'est pas un prêtre. C'est-à-dire qu'il y a une question de sacralité. Vous allez nous l'expliquer, parce que je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les auditrices et auditeurs. À la maison, à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes adultes compétentes, le foyer familial peut être comme un hôtel, comme à la synagogue. Ce qui n'est pas forcément possible dans le christianisme, puisque s'il n'y a pas de prêtre, il ne peut pas y avoir d'hôtel enfin, symbolique à la maison. Enfin, je ne sais pas si ma question a un intérêt et du sens. Est-ce que c'est ça qui fait un peu aussi un élément de différence, en plus de ce que vous avez énoncé tout à l'heure?
C'est intéressant votre question, parce qu'en vous écoutant, je pensais, pendant le confinement, vous vous souvenez, il y a eu cette histoire de grand confinement il y a 6 ans, et pendant le confinement, on a beaucoup promu, dans l'Église catholique, on a beaucoup promu des liturgies domestiques. Pour des raisons évidentes, voilà. Et ce qui était assez beau, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se sont appropriés les choses et que du coup, des pères de famille, souvent, des mères de famille, quelquefois, ben, on conduit, je ne sais pas comment dire, la liturgie qui était proposée. Et on avait eu notamment, en 2020, il y avait eu justement le Triduum Pascal qui était dans cette période de confinement. Donc, et les gens ont découvert ça et se le sont approprié de façon domestique. Alors, c'est vrai que d'une manière ordinaire, dans le catholicisme...
Mais pas l'Eucharistie. Il ne faisait pas
l'Eucharistie. Ah ben, il n'y a pas l'Eucharistie. Oui,
voilà,
pas l'Eucharistie.
C'était un peu ça.
Mais pour les autres, pour les toutes autres les autres éléments. Choses, c'est voilà. Intéressant. Alors évidemment, pour nous, dans le catholicisme, assumer cette dimension où le Christ, Jésus, transmet à ses apôtres un certain nombre de pouvoirs, en un sens, et a été compris comme un de ces pouvoirs, cette réitération de la scène qui se fait dans ce qu'on appelle la messe, dans la célébration de l'Eucharistie, non seulement dimanche après dimanche, mais jour après jour, en fait.
D'accord.
Et donc, et débordant de cela, d'autres pouvoirs sacramentels qui sont de la compétence des prêtres, en fait, des prêtres, qui sont dans le prolongement des gestes et des paroles que Jésus peut faire. Voilà. Et bon, il y aura d'autres choses à dire, mais de fait, c'est cette présidence, cette célébration de l'Eucharistie, elle est sous la responsabilité, et plus que la responsabilité, la charge même des prêtres.
Ce qui n'est pas le cas chez les protestants, puisque les protestants, nous n'avons pas de prêtres. Si on dit qu'on a des prêtres, on dirait que tous nous sommes prêtres, voyez. Donc, en disant que tous les baptisés sont prêtres, on dit en même temps que personne n'est prêtre. Donc, ce qui fait que la charge de la liturgie, de tout ce qui se vit, de la transmission, de la répétition de toutes les histoires, peuvent se faire par n'importe quel baptisé chez nous, les protestants. Mais bien sûr, pour des questions d'ordre, nous utilisons ce terme-là, pour les questions d'ordre, on a mis un certain nombre d'éléments comme des éléments liturgiques qui se font et se vivent en communauté, et en communauté plus élargie que simplement ce qu'on disait domestique, c'est-à-dire la maison familiale. Quand on fait le baptême, on peut faire le baptême dans une maison familiale, on peut faire l'Eucharistie, la scène, le repas du Seigneur dans une maison familiale, mais il faut toujours que cela soit plus large que les membres de cette maison. Il faut bien que d'autres personnes qui n'appartiennent pas à cette maison soient présentes à ce moment-là. Voilà, ce qui fait que la dimension domestique, on l'a abandonnée pour la dimension communautaire. Mais cette communauté, elle peut se vivre, encore une fois, dans chaque domicile. Hein? On n'est pas obligé d'être dans un temple ou lors d'un culte solennel de la grande communauté pour que cela se fasse. On n'a pas non plus besoin d'avoir des pasteurs pour que on puisse faire ce repas dans une famille, en présence de plusieurs familles de toute une communauté. N'importe quel baptisé qui sait le faire, qui peut avoir mission de le faire. Encore une fois, pour des questions d'ordre, il faut quand même désigner des personnes pour le faire. N'importe qui peut le faire, même s'il n'est pas pasteur. Sachant que nous n'avons pas, chez les protestants, des prêtres ordonnés comme on peut le faire dans l'Église catholique. Et si je peux revenir un peu sur ce que Michel disait tout à l'heure sur l'absence de la mort dans le CDR. J'entends bien cela et ça me faisait penser que peut-être que nous-mêmes, lorsque nous parlons de la mort dans le repas du Seigneur, nous l'entendons vraiment dans le sens le plus large possible. D'abord, comme le rappelait tout à l'heure le Père Clément, ce repas est institué bien avant les événements de la croix et de la résurrection. C'est le jeudi que cela se passe. Jésus n'est pas encore ici mort. Et j'aime beaucoup ce texte de l'apôtre Paul que je vais citer. Il dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, voilà. Donc, il y a quelque chose de rappel de toutes les violences, de toutes les morts, de tout ce qui a servi l'humain qui est ici récapitulé. Ce n'est donc pas simplement une question de la mort en tant que telle, comme on l'entend, comme vous disiez, mais pour nous, du coup, on peut même comprendre l'esclavage comme étant la mort. C'est pas, c'est, vous voyez, c'est un peu ce que nous voulons aussi rappeler dans cela. Peut-être qu'en cela aussi, c'est pas forcément de chercher comment est-ce que nous pouvons nous retrouver dans la symbolique de tout ceci, mais c'est vraiment montrer que nous portons ces éléments-là au cœur même du repas du Seigneur lorsque nous le célébrons. L'esclavage, pour nous, étant symbolique de la mort. Et ça, nous voulons le rappeler pour mieux montrer comment cela a été vaincu.
Vous avez parlé du Messie, on y reviendra dans une autre émission, puisque cette notion n'est pas la même chez les chrétiens que chez les juifs, bien entendu. Dans quelques jours, nous allons célébrer ces fêtes qui ont quelques liens dans le temps, un peu plus précisément cette année, je crois. Peut-être avant de conclure, que vous puissiez redire quelques mots sur le sens profond pour chacun d'entre vous de ce moment dans la vie des chrétiens et dans la vie des juifs.
Quand même, une chose sur la question des dates, c'est une question intéressante, cette question des dates. Pessa, donc, nous savons, c'est 14 Nisan. Voilà. La pleine lune de printemps, pour faire court. 14 Nisan. Et la question s'est posée dans les premiers siècles du christianisme, à quel moment fêter Pâques ? À quel moment fêter la Pâque chrétienne ? Et il y avait deux courants. Il y avait un courant qui était, puisque la Pâque juive, c'est le 14 Nisan, donc la Pâque chrétienne, ça sera l'équivalent du 14 Nisan dans le calendrier chrétien. C'est ce qu'on appelle l'usage quarto-décimant, qui s'est maintenu jusqu'en 325. Et puis, il y avait un autre courant qui était de dire, on va garder ce compute des jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de sorte à ce que, de toute façon, ça soit toujours, la Pâque soit toujours le dimanche qui suit le 14 Nisan, comme cette année.
D'accord.
14 Nisan, c'est le 1er avril, si je me souviens bien, et la Pâque chrétienne sera le 5 avril. Voilà. Et c'est cet usage qui a prévalu ensuite. De sorte qu'il y a un lien, comment est-ce que je pourrais dire, il y a un lien ontologique, il y a un lien très fort entre ces deux événements, ces deux fêtes, mais avec un décalage qui montre que ce n'est pas les mêmes fêtes, en fait. Et pour ne pas, je ne sais pas comment dire, faire une OPA de l'une sur l'autre, en un sens. Donc il y a ce décalage que je trouve très intéressant, parce que c'est le même mot, mais gardons la signification de chacune des fêtes dans son univers religieux propre, même si, évidemment, on l'a bien vu, il y a un lien qui est vraiment très fort entre les deux.
Pessah, c'est vraiment la seule fête vraiment familiale dans laquelle on peut trouver le dialogue déjà entre nous. Et quand on parle des quatre enfants, malheureusement, il y en a un cinquième que la Haggadah ne parle pas, c'est celui qui n'est pas venu. Donc celui qui n'est pas là. Et aujourd'hui, disons qu'il nous pèse beaucoup. Alors, nous aimons nous retrouver. Moi-même, je vais rejoindre mes enfants et petits-enfants pour passer Pâques en famille. Et c'est une occasion de nous parler. Nous parlons de la sortie d'Égypte. Et nous-mêmes, donc, nous parlons de tout ce que cela touche actuellement. On évoque aussi toutes les persécutions qui ont eu lieu au cours des siècles. Et également, on est solidaire des victimes. Lorsque l'on évoque les 10 plaies d'Égypte, eh bien, on retire un petit peu de vin de la coupe. Mm-hmm. Parce que les Égyptiens ont souffert et notre joie ne peut pas être complète mm-hmm. si les Égyptiens sont mm-hmm. malheureux. Et encore aujourd'hui, on revit toujours cette situation. On voit des peuples nombreux et puissants qui veulent notre mort. Et d'autre côté, on voit aussi des peuples qui souffrent et qui sont très malheureux au cours de cette guerre. Et notre joie ne peut pas être complète si tout le monde n'est pas complet. On ne peut jamais être heureux tout seul. Donc, à Pessah, nous essayons d'enlever le superflu, la vanité. Mmh. On reste au niveau de tout le monde et on espère tous la paix, le bonheur et la fraternité entre tous les enfants d'Adam qui l'ont bien mérité après tout.
Père Clément ?
Moi, je dirais deux choses, en fait. La première, c'est que Pâques arrive, dans le catholicisme, c'est très marqué, au bout de 40 jours de carême. Donc 40 jours d'une préparation spirituelle, d'une préparation matérielle un peu, mais spirituelle d'abord, qui a une grande importance pour ce... un petit peu dans l'esprit, je pense, de purifier, de faire le ménage, d'enlever le rametz qui est au fond de nos cœurs et dans nos relations, en fait, pour accueillir la Pâque nouvelle, quoi, l'agneau nouveau... Et puis du coup, le deuxième point, c'est la puissance qu'a dans la liturgie, dans la théologie, dans les chants, dans les textes. C'est ce jour lumineux de Pâques, qui est le jour de la vie, quoi. Où celui qui est passé par la mort l'a traversé pour une vie nouvelle. Et quelque part, c'est un petit peu frustrant parce que de fait, cette vie nouvelle, on voit bien que ça le concerne lui et on aimerait que ça nous concerne un peu plus nous et que cette vie nouvelle, elle irradie les relations entre les personnes, entre les quartiers, entre les voisins, entre les nations et que cette vie nouvelle, on voit bien que pour qu'on se retrousse les manches pour qu'elle advienne concrètement, quoi. Cette vie nouvelle, elle nous est confiée pour qu'on la mette en œuvre. Et on n'a pas trop d'une année en attendant la Pâque prochaine, pas trop de nos vies pour que cette vie nouvelle s'incarne justement dans le quotidien de là où nous sommes.
Pasteur Menga.
Oui, j'aime beaucoup le message final que nous donne Michel Lévy, que je comprends comme étant que Pessa, c'est d'abord une joie tenue, hein, une joie tenue où on ne peut pas être seul à être dans la joie alors que d'autres personnes sont dans la misère. Donc cette idée d'une joie tenue qui fait que le côté joyeux de Pâques n'escamote pas la dimension dramatique même de Pâques. Moi, je trouve ça comme message fort. Et dans le monde chrétien, on peut le symboliser par le fait que le Christ... que le crucifié, c'est celui-là même qui ressuscite. Vous voyez ? C'est le crucifié qui ressuscite. Et bien plus encore, on peut peut-être dire que le ressuscité porte en lui les marques des clous. Hein ? Il garde le jour de sa résurrection les marques de sa mort. On ne peut pas escamoter cette dimension dramatique. Oui, la résurrection que nous fêtons le dimanche de Pâques est inséparable de la crucifixion et inversement. Donc, je crois que quand nous sommes joyeux le jour de Pâques, et j'aime beaucoup ce que Michel Lévy a dit de cette joie tenue, nous ne pouvons pas ne pas penser à tous ces drames, à tous ces clous qui restent encore pointés sur des personnes aujourd'hui. Donc Pâques, c'est vraiment rappeler cela, mais tout en ouvrant à cette espérance pour chacun d'entre nous et pour, au fond, la victoire de la vie.
Très bien, je vous remercie. Donc je rappelle que j'étais avec Michel Lévy, le père Raphaël Clément, le pasteur Marcel Benga, tous trois membres de l'amitié judéo-chrétienne de Dijon. Je vous remercie. À très bientôt sur Shalom Bourgogne.